Au livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sarthe et à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or, et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceinte à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains point. » Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite, et les sept lampes d'or, les sept étoiles sont les anges des sept assemblées, et les sept lampes sont sept assemblées.
Il a été souhaité qu'on revienne un instant sur le nom de l'Éternel, et notre frère suggérait que nous lisions à la fin d'Ésaïe 55 un verset très important sur lequel on passe facilement puisqu'on s'arrête davantage sur le début du chapitre avec les merveilleuses déclarations qu'il contient. Mais à la fin d'Ésaïe 55, nous avons ceci, verset 12, « Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine, croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. » Alors, on peut dire ceci, dans le chapitre 53, nous avons la mort du vrai serviteur. Mon serviteur agira sagement, il a poursuivi son chemin jusqu'à la mort, et dans le chapitre 53, le serviteur parfait sur lequel le ciel a pu s'ouvrir, il est mort. Par sa connaissance, mon serviteur enseigne à la justice, et lui, il portera leurs iniquités. En raison du fait que le vrai serviteur est mort, Dieu peut avoir des serviteurs, car auparavant, nous savons bien que le terme serviteur s'adressait à Jacob, 10 fois il fait mention d'Israël comme étant le serviteur, mais c'est un serviteur défaillant. Dès lors, l'Éternel présente son serviteur. Et le voici dans le chapitre 53, qu'il donne sa vie, et le résultat, c'est que Dieu a maintenant des serviteurs. Serviteurs qui sont établis sur un fondement impérissable, c'est-à-dire sur l'épître aux Romains. Dans le chapitre 54, nous avons cette mention de la faveur de Dieu sur les serviteurs au verset 13, « Et tous tes fils seront enseignés d'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. » La paix de tes fils, nous avons la paix avec Dieu, ils auront la paix avec Dieu sur le même terrain que nous. Et le verset suivant, « Tu seras établi en justice. » Voilà deux termes qui nous introduisent dans les vérités si élevées, si profondes de l'épître aux Romains. Comment Dieu rencontre l'homme pécheur. Et ici, il s'agit d'Israël sans doute, mais demain, ils seront établis sur un terrain de justice et la paix dans laquelle ils seront introduits sera grande parce qu'il ne s'agira plus de leurs efforts d'un peuple soumis à la responsabilité selon la loi, mais de la grâce de Dieu. Alors, dans le chapitre 54, nous avons tout de suite une exclamation du prophète à l'égard de celle qui était désolée et qui va maintenant se trouver dans une position de femme mariée. En fait, il s'agit d'Israël, mais des nations, le cercle s'étend pour que les nations soient introduites dans le cercle de la bénédiction au milieu de laquelle Israël aura une place prépondérante. Alors, chapitre 55, « Oh, quiconque a soif, nous n'avons jamais entendu cet appel avant le chapitre 53. Maintenant que le serviteur est mort, qu'il a donné sa vie, Dieu peut faire grâce à tous les hommes. » Et nous avons le terme « quiconque » pour montrer que Dieu n'exclut plus personne. Plus personne, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Dieu fait grâce à tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, leurs antécédents, leur religion. Tout est maintenant effacé. C'est une chose nouvelle. Les choses vieilles sont passées. Quiconque, n'importe qui a soif, il peut venir aux eaux, les eaux de la grâce. Et la fin du chapitre que nous avons lu nous introduit avec le bonheur d'Israël dans la possession des bénédictions que le règne va leur apporter. Nous avons dans le psaume, faire comprendre ce passage d'Ésaïe, on peut lire dans le psaume 97, on sait que le Seigneur est entré dans son règne, la justice, voyez-vous, la justice et le jugement sont la base de ton trône. Le Seigneur est entré dans son règne. Dans le chapitre 96, il vient pour l'établir. Et vous avez alors ces versets, verset 11, « Que les cieux se réjouissent, que la terre s'égaye, que la mer bruit, tout ce qui la remplit, que les champs se réjouissent et tout ce qui est en eux. Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie devant l'Éternel, car il vient. » Dans le chapitre suivant, nous l'avons lu, il est venu. Dans le chapitre précédent, celui-ci, donc, il vient. Et au moment où il vient, il y aura le rétablissement de toutes choses. Dieu va introduire ce qui va modifier, changer, transformer entièrement les choses de la création actuelle, qui souffre, qui soupire, qui est en travail. Elle a été assujettie, non à cause de sa volonté, mais à cause de la volonté de celui qui l'a servie, à cause du péché de l'homme. Toutes les conséquences du péché sont ressenties par la création tout entière. La création souffre, nous participons à ses souffrances jusqu'au moment où le Seigneur va nous délivrer. Alors, pour montrer la qualité, la beauté de ce tableau, Dieu fait chanter les arbres, Dieu fait chanter les prairies, c'est-à-dire la création elle-même sera comme un nouveau jardin d'Éden. Dieu peut tout aussi bien rétablir les choses comme elles étaient au commencement, qui pourrait dépeindre ce qu'elle était au commencement avant que le péché vienne la gâter. Eh bien, elle sera rétablie de la même manière dans le jour à venir. C'est le rétablissement de toute chose. Dieu ramènera ce qui était autrefois dans une condition qui sera entièrement dégagée, purifiée, délivrée de toutes les conséquences du péché. Alors, les arbres des champs battent des mains, nous comprenons bien que les arbres des champs ne vont pas battre des mains, mais la création elle-même sera un véritable cantique à la gloire de Dieu, au bonheur des hommes, chanté pour le bonheur des hommes et à la gloire de celui qui a introduit ce qui peut permettre à Dieu de changer cet état de choses en un état de choses durable, définitif. Il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas de changement jusqu'au moment où il n'y aura plus de lune. Pendant 1000 ans, ce règne va se perpétuer dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, et la couronne que le Seigneur portera sur la tête sera toujours plus belle. Et les hommes jouiront de ce bonheur incomparable d'avoir le Seigneur au milieu d'eux, qui sera le centre par lequel toutes les bénédictions divines seront répandues sur eux. Alors seulement ce mot, au lieu de l'épine, L'épine conséquence du péché, c'est si manifeste. Il n'y aura plus d'aiguillon qui blesse, ni d'épine qui cause de la douleur, dit le prophète Ézéchiel. Vous voyez, chers amis, plus d'aiguillon qui blesse. Tant d'aiguillon nous blesse aujourd'hui, pénètre notre cœur d'une manière ou d'une autre. Plus d'aiguillon qui blesse, plus d'épine qui apporte de la douleur. On dit, on sait, il est constaté que là où il n'y a pas d'épines, c'est là où l'homme n'a pas mis le pied. Mais dès que l'homme est entré dans une scène, les épines le suivent. Ce sont les conséquences matérielles, visibles, du péché qui a été introduit dans le monde. Mais au lieu de l'épine, croîtra le cyprès. Cyprès, un arbre qui a une grande notoriété dans le temple, avec lequel on revêtait les murs, les planchers. C'est un arbre avec lequel on construisait les momies, pour un arbre qui est le symbole de ce qui est imputrescible, de ce qui dure toujours. Eh bien voilà, au lieu de l'ortie, au lieu de l'épine, il y aura le cyprès, cet arbre si beau, et qui est le symbole de ce qui est impérissable. Enfin, au lieu de l'ortie, croîtra le myrte. On a le myrte dans Zacharie 1, c'est-à-dire cet arbre si beau, blanc, fleuri, qui était le symbole, je crois, de la gloire chez les Grecs. Alors, un symbole si manifeste de la gloire dans laquelle le Seigneur va amener son règne. Et le Seigneur est vu au milieu des myrtes dans le prophète Zacharie au chapitre 1er. Il y a un fond de myrte, et au fond des myrtes, il y a lui qui s'avance pour amener ce que le myrte exprime, c'est-à-dire le bonheur d'avoir le Seigneur comme roi, roi à toujours, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et enfin, ce sera pour l'Éternel un nom. Le nom qui est un signe à toujours, qui ne sera pas retranché. Ce nom, le Seigneur le dit précisément dans l'équivalence de ce nom avec Jéhovah, c'est là mon nom éternellement. C'est un nom qui ne sera pas retranché. Ce nom du Seigneur, nom qui manifeste ce qu'il est immuable à l'égard de toutes les promesses qui sont faites et qui sont rétablies maintenant, c'est un nom qui ne sera pas retranché.
Continuons notre lecture. Après les versets considérés cet après-midi, au verset 7e. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et nous entrons là dans le sujet proprement dit du livre de l'Apocalypse. La venue glorieuse de notre Seigneur, son épiphanie, son apparition glorieuse aux yeux de tous. Chacun sait que la venue du Seigneur, de celui que nous attendons des cieux, est un terme qui est traduit par le mot parousie. Nous attendons la parousie du Seigneur, c'est-à-dire sa présence, toujours avec le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, alors nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est ce que nous attendons, la parousie ou la présence de notre Seigneur. Et c'est avec lui que nous viendrons pour juger la terre. L'apôtre Paul le dit en Corinthiens 6, verset 1, « Ne savez-vous pas que c'est vous qui jugerez le monde ?» Le Seigneur jugera le monde, mais vous accompagnerez le Seigneur dans l'exercice de ses jugements. En Corinthiens 6, le dit très clairement. Alors, notre Seigneur apparaissant, tout œil le verra, c'est là ce qui s'appelle l'épiphanie de notre Seigneur. L'épiphanie de notre Seigneur, c'est-à-dire son apparition glorieuse. Voici, il vient, lisons-nous dans ce verset 8, « Et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. » Les frères ont parlé cet après-midi des trois grands sujets du livre de l'Apocalypse, ce qui représente en même temps la structure du livre. Cela nous a été enseigné depuis fort longtemps. Les choses que Jean a vues, le Seigneur dans ses gloires variées, dont nous allons nous occuper bientôt. Chapitre 1er, histoire du témoignage chrétien, de son déclin et de sa ruine finale. Chapitres 2 et 3, histoire représentée par sept lettres qui sont adressées aux anges de sept assemblées qui ont existé, des assemblées locales, mais qui ont été appelées à représenter d'une façon générale l'histoire du témoignage chrétien. Avec le chapitre quatrième, nous avons la troisième partie de ce livre, les choses qui doivent arriver après celles-ci. Celles-ci, ce sont les choses de l'Église. Il n'est plus parlé de l'Église depuis le chapitre quatrième. C'est pour cela que les chapitres 2 et 3 ne présentent pas seulement une assemblée locale, sept assemblées locales, mais véritablement l'histoire du témoignage chrétien sur la terre jusqu'à ce qu'une telle Église soit vomie de la bouche du Seigneur. Comme il est dit de la Odyssée, la septième assemblée mentionnée. Alors, après ces choses, après celles-ci, il y a celles qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire le tableau de l'exercice des jugements de notre Seigneur à l'égard de ce monde. C'est le sujet des chapitres 4 et suivants jusqu'à la fin du livre, disons jusqu'à la fin du chapitre 21. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre, une note explicative nous dit, ou du pays, du vaste pays de la terre, du monde, pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations, toutes les tribus de la terre, est-il dit, se lamenteront à cause de lui. C'est un tableau extraordinaire, ce tableau de cette lamentation générale, pas seulement au sein d'Israël, mais au sein des nations, de toutes les tribus de la terre. On se lamentera à cause de lui, à cause de ce Seigneur de gloire qui vient, dont nous avons le tableau de l'apparition glorieuse. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà une prophétie concernant cette lamentation générale, cette lamentation dans tous les domaines. C'est au prophète Amos qu'il a été confié la mention de cette lamentation. Au livre du prophète Amos, le troisième des petits prophètes, nous lisons ceci. Au chapitre 6e du livre du prophète Amos, nous lisons l'alinéa en entier du verset 14 au verset 17e. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites. Mais il ne saurait être avec vous si vous persévérez dans un chemin où le mal règne. Haïssez le mal, aimez le bien, établissez dans la porte le juste jugement, peut-être l'Éternel, c'est pas sûr, peut-être l'Éternel usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph, ou ce que la parole appelle le résidu, en d'autres passages, et spécialement le résidu des tribus de Juda et Benjamin. Dans notre prophète Amos, il s'agit du peuple d'Israël. Dans notre chapitre premier de l'Apocalypse, il s'agit pas seulement des tribus du peuple d'Israël, spécialement Juda et Benjamin, mais de toutes les tribus de la terre. Alors, qu'est-il dit ? Peut-être que l'Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, la lamentation. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et à la lamentation ceux qui s'entendent au chant de douleur. Et dans toutes les vignes, la lamentation. Car je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Nous avons donc là déjà la mention de la venue de l'Éternel, venant juger son peuple, mais aussi finalement user de grâce à son égard dans la mesure où réellement on se lamentera à cause de l'Éternel, à cause du déshonneur qu'on a infligé au saint nom de l'Éternel. Il s'agit donc d'Israël dans notre passage. La lamentation est mentionnée trois fois, la lamentation partout. partout parmi le résidu des enfants de Judas, de Benjamin et fils de Joseph, comme il est dit ici. Tandis qu'alors, dans notre passage au livre de l'Apocalypse, nous avons une lamentation générale lorsque le Seigneur Jésus lui-même apparaît. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Voilà un fait extraordinaire qui se passera. On se lamentera partout à cause de lui, à cause du Seigneur de gloire, qu'un jour on aura osé percer, comme il est dit ici, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et alors il est donné à l'apôtre d'ajouter ce mot de totale approbation, oui, amen. Ainsi soit-il, le jugement doit fondre sur les tribus de toute la terre, mais aussi, il y a une pensée de grâce émise dans le livre du prophète Amos. Finalement, le propos de la grâce de Dieu à l'égard de son peuple et à l'égard de toutes les nations se réalisera. Notre frère vient de parler des temps de rafraîchissement dont parle l'apôtre Pierre dans le troisième discours qu'il prononce au livre des Actes des Apôtres, dans l'attente que viennent ces jours de rafraîchissement ou du rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire la gloire même de notre Seigneur vu sur la terre durant les jours du millénium, le règne de mille ans. Et nous pouvons bien dire, nous aussi, en parlant de tout le mal qu'il y a sur cette terre, hélas, nos frères en ont parlé cet après-midi, mais pensant alors à la gloire dans laquelle le Seigneur apparaîtra, et finalement usant de grâce pour apporter la bénédiction sur la terre, comme Ésaïe 55 vient de nous le dire, alors nous pouvons bien dire amen, oui, amen.
Voici, il vient. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Qui est-il, celui qui vient? C'est celui dont il est question au verset 5, celui qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Le premier-né des morts. Quand il est né sur la terre, dans l'évangile selon Matthieu, il est annoncé celui à qui on allait donner le nom de Jésus, Jéhovah Sauveur, d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est appelé là, il naît, il est le premier-né, et on appela son nom Jésus. Dans l'évangile selon Luc, il vient comme le Fils de l'homme, l'homme parfait. Et Marie prend le petit enfant, l'emmaillote, le met dans une crèche, c'est son premier-né. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il nous est présenté comme celui que Dieu veut qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de lui comme le premier-né, celui qui a cette place de premier-né. Comme il est dit dans le psaume, « Je ferai de lui le premier-né, le prince des rois de la terre ». Et dans l'Épître aux Colossiens, il est le premier-né de toute la création, celui qui est à l'origine de la création. Il est le premier-né d'entre les morts, celui qui est entré dans la mort et qui est ressuscité afin qu'il tienne en toute chose la première place. Ici, il est le premier-né des morts, celui qui a connu la mort. Celui qui a été percé, celui à qui nous pouvons chanter à celui qui nous aime, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Mais il a été percé. Et quand le Seigneur Jésus, à la fin de son ministère, parle à ses disciples, il emploie, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, une expression, quand il parle de sa venue, de cette venue-là, au chapitre 24, au verset 30, il dit, « Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Fils de l'homme qui vient, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. La même chose que dans notre passage, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, celui qui a été rejeté, celui qui est mort sur la croix. Et quand les souverains, le souverain sacrificateur, les chefs du peuple l'interrogent, au chapitre 26 de Matthieu aussi, et le souverain sacrificateur va lui dire, je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si toi tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit, au verset 63 et 64 du chapitre 26, tu l'as dit, de plus je vous dis que dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Ils ont rejeté celui qui était venu en grâce, ils vont connaître celui qui viendra comme juge. Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance venant sur les nuées du ciel. Mais à la suite, au verset 8 dans notre chapitre, qui est celui qui vient? Ce Fils de l'homme, celui qui a été percé, celui qui a été rejeté. Son caractère nous est présenté encore au verset 8, quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Le Seigneur Dieu, l'Éternel, il est l'Éternel. Celui qui est, qui était et qui vient, le même caractère que ce que l'on a vu tout à l'heure au verset 4. Le Tout-Puissant, celui qui a été rejeté, celui qui vient, il est aussi l'Éternel, le Tout-Puissant. Il est aussi celui-là.
Il n'est peut-être pas inutile de bien préciser que ce « voici, il vient » avec les nuées, ce n'est pas sa venue pour enlever son Église, mais c'est sa venue avec son Église. La distinction est soigneusement faite dans les Épîtres. Nous avons sa venue pour enlever l'Église, guère que dans deux passages, n'est-ce pas, le chapitre 15 de la première aux Corinthiens et le chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens. Et autrement, quand il est question de du retour du Seigneur, c'est celui que nous avons ici. Il vient avec les siens, avec les nuées, pas sur la nuée, mais avec les nuées. Et sur la même page, tout en haut, dans l'Épître à Jude, n'est-ce pas, la prophétie d'Énoch, voici le Seigneur est venu au milieu de ces saintes myriades, ces myriades qui comporteront des anges, sans doute, mais aussi les croyants, qui seront vus alors en gloire avec lui. Et en comparant ces deux événements, celui que nous attendons, qui peut se produire avant que cette réunion ne soit finie, voici, il vient chercher son épouse. Ce ne sera pas alors une apparition spectaculaire, le monde ne le verra pas. Ce ne sera pas comme ici, n'est-ce pas? Tout œil ne le verra pas quand il viendra chercher son Église, mais les siens le verront. Nous le verrons, chers frères et sœurs. Alors, cela nous est dit dans Jean, peut-être, c'est quand même plus général dans la première épître de Jean, mais il est dit, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Nous le verrons comme il est. Et alors, est-ce que ce sera les lamentations que nous avons ici? Ce sera un sujet de joie et de joie éternelle. Quel contraste, n'est-ce pas? Sa venue pour enlever son Église, sujet de joie éternelle pour ses rachetés. Mais quand il paraîtra, avec les nuées, avec les siens, ce sera pour juger. Et alors, son peuple, sans doute, il y aura des lamentations qui conduiront à une repentance et finalement à un état d'humiliation telle et de reconnaissance de ses droits, tel que le Seigneur pourra introduire son royaume et exercer ses droits. Mais pour nous, la chose est faite. Le royaume est déjà là, n'est-ce pas, en ce sens qu'il règne sur les siens et que nous lui appartenons, qu'il a son autorité sur nous. Alors sa venue est un sujet de joie et non pas de lamentation. Ici, nous avons donc ces titres que nous trouvons à plusieurs reprises dans le livre, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, nous a déjà rappelé les passages, le Tout-Puissant. Et puis, l'auteur du livre qui parle ici en prophète et de la part de Dieu se présente de nouveau à nous. Je suis votre frère. Non pas en apôtre, mais il est là, un frère parmi ses frères. Et il s'adresse à eux pour leur faire part de cette expérience qu'il vient de faire, de cette vision qu'il vient d'avoir dans la journée dominicale. Et il peut dire en se présentant, « Moi qui ai part avec vous, nous avons une part commune. Nous partageons la même espérance et nous avons part à quoi ? À trois choses. À la tribulation. Le Seigneur l'avait annoncé, il l'avait dit à ses disciples, Jean lui-même étant parmi les auditeurs, à la fin du chapitre 16 de l'évangile de Jean, vous aurez de la tribulation dans le monde. Cette tribulation est là, Jean y a part, et il nous a dit, et l'histoire le confirme, il a été dans l'île de Patmos, n'est-ce pas, pour le nom du Seigneur, exilé, souffrant pour le nom du Seigneur, et au royaume, souffrance et gloire. Et deux fois, nous trouvons les deux choses réunies, comme pour nous rappeler que la tribulation vient d'abord, les souffrances d'abord, mais les gloires qui suivent. Pour le Seigneur, il en a été ainsi. Pour les croyants, il en sera ainsi. Les souffrances, les gloires. Mais, troisième chose, et qui vient entre les deux, et à la patience en Jésus. Entre les souffrances et la gloire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la patience. Nous sommes dans un temps de patience, l'attente de la manifestation du Seigneur, l'attente du moment où il vient pour régner. Il vient avec les nuées, les siens paraîtront avec lui. C'est pour le moment un temps de patience. Entre les deux, cette patience. Et Jean est ici un exemple pour ses frères. Il va leur révéler de très grandes choses que le Seigneur lui a communiquées. Il va leur en faire part. Et il rappelle que le temps présent n'est pas encore un temps de règne, mais qu'il faut que tout ce qui est révélé, tout ce qui est décrit dans ce livre doit arriver d'abord, et qu'alors les siens partageront cette gloire qui attend le Seigneur et les siens, qu'ils partageront avec lui.
On pourrait dire que ce que notre frère vient de souligner, c'est la réalisation de 2 Timothée 2:12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Alors note, il a dit, si nous souffrons avec lui. La tribulation et puis le royaume. Voilà la part du croyant. Mais je voudrais revenir un peu sur le verset 7 et sur cette expression, ceux qui l'ont percé. Il semble que cet acte de percer le Seigneur, ses mains, ses pieds, son côté, est imputé aux nations. Ici, cet acte est imputé aux Juifs. Mais si nous lisons le psaume 22, par exemple, eh bien, des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Les chiens, ce sont les nations, nous le savons bien. Mais si les nations ont fait cela, et ce sont les nations, n'est-ce pas, qui ont percé le Seigneur, ce sont les Romains qui ont crucifié le Seigneur et qui lui ont percé le côté, eh bien, si les nations ont fait cela, c'est sous l'instigation du peuple juif. Ce sont les Juifs qui ont crié contre lui, « Crucifie, crucifie-le !» Alors, il semble bien que cet acte est imputé à la nation juive. Il y a les deux côtés ici, il y a d'un côté, il y a ceux qui l'ont percé, et puis d'un autre côté, toutes les tribus de la terre. les Juifs et les nations se lamenteront sur lui. Je voudrais rappeler un passage du prophète Zacharie où nous voyons que ce sont réellement les Juifs qui sont les plus grands coupables de la mort du Seigneur sans ôter pour cela la responsabilité imputée aux nations. Dans le prophète Zacharie, au chapitre 12, nous lisons verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. » Donc c'est bien la maison de David qui est premièrement coupable d'avoir rejeté, d'avoir crucifié le Seigneur. Et alors il y a encore cette lamentation au verset 11 en ce jour-là. Il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimmon dans la vallée de Megiddo. Le monde entier donc, les Juifs comme les Romains, comme les nations, sont coupables d'avoir rejeté le Seigneur Jésus. Rappelons-nous l'écriteau qui était au-dessus de la croix. Il était écrit en lettres grecques, romaines et hébraïques.
Ce terme de tribulation a un sens particulier. Aujourd'hui, le mot tribulation signifie quelque chose de moral, circonstance pénible, difficile, qui fait souffrir, ce qui est impliqué dans le mot patience. La patience, autrefois, voulait dire la souffrance. Ça vient d'un mot latin qu'on connaît bien, un mot latin qui veut dire souffrir. La patience est synonyme de souffrance. Et en fait, c'est ce que l'apôtre Jean souligne ici, quand il dit, moi, Jean, qui suis votre frère et qui éprouve avec vous la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Vous traversez des temps de tribulation, de persécution, inouïe, mais moi, je suis là. L'apôtre Jean, je suis votre frère, je souffre aussi, je souffre avec vous. Mais je suis soutenu par la pensée du royaume, ce que notre frère vient de dire en rappelant 2 Timothée 2:12. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et puis alors, en attendant que le royaume apparaisse, il faut attendre. C'est là la patience. Et la patience implique toujours l'idée de souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas un proverbe qui dit que l'attente différée rend le cœur malade? L'attente différée, quand la patience se prolonge et qu'on ne voit pas de résultat aux exercices de la foi et de la confiance, l'attente différée rend le cœur malade, est-il dit au livre des Proverbes. Alors, quant à ce mot tribulation, autrefois, il n'avait qu'un sens matériel. Il n'avait pas du tout ce sens qu'il a pris plus tard, ce sens d'ordre moral, la tribulation, la souffrance, la persécution. Mais on parlait de la tribulation comme étant une occupation de l'agriculteur. C'est un terme, ce mot tribulation, qui vient du travail de la campagne, et au jour de l'Empire romain, on parlait du travail de l'agriculteur en disant « ils tribulent le blé ». Leur travail, c'était de tribuler le blé, c'est-à-dire passer le blé dans le vent afin d'en faire sortir le bon grain et mettre de côté la balle, comme de la poussière. Puis alors, en pensant à ce travail du blé, pour que le bon grain soit mis en évidence, qu'on puisse l'utiliser, alors de ce sens tout simplement matériel, tribulé, les laboureurs à Rome tribulaient le blé, eh bien, on est arrivé alors au sens moral, au sens de la souffrance. La tribulation, l'apôtre Paul le dit dans le chapitre suivant de Timothée 3, vous connaissez ma tribulation, mes tribulations, ma doctrine, mon support, voilà la pensée de la patience, mais aussi ils s'en remettent au Seigneur et sait que le Seigneur le délivrera de toutes ces circonstances fâcheuses. La tribulation indique donc la pensée d'une séparation d'ordre moral, ce qui entraîne une souffrance. Moi qui suis votre frère et qui pars avec vous à la tribulation, mais il y a une espérance, l'espérance du royaume, et l'on attend, il est parlé de la patience en Jésus, on attend que cette espérance s'accomplisse, c'est-à-dire tout d'abord le retour de notre Seigneur. Dans ces versets, comme nos frères viennent de le souligner, il s'agit certainement de l'apparition glorieuse de notre Seigneur et qui apparaîtra et pour juger tout d'abord le peuple d'Israël, le premier grand coupable à l'égard des souffrances et de la mort du Seigneur, puis toutes les tribus de la terre, notre frère l'a dit tout à l'heure. Et voici Jean qui était là dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale, ajoute-t-il, et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette disant, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le à cette assemblée, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à la Laodicée, donc le sujet des chapitres 2 et 3 de ce livre. Il est remarquable de voir cette attitude de l'apôtre Jean au verset 12. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Il a entendu une voix, mais cette voix personnifiait quelqu'un. Il n'a pas seulement entendu, il voulait voir. S'adressant au Seigneur, appeler quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, et ce verset 12 à 16 nous donne ce tableau des gloires magnifiques du Seigneur. C'est ce qui a amené des frères autrefois à parler d'Apocalypse 1 comme étant une sommité dans l'enseignement du Nouveau Testament. On a parlé de Jean, on a parlé de Colossiens, d'Hébreux 1. Apocalypse 1 de même est véritablement une sommité dans l'enseignement des pensées de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Dieu nous fait connaître les gloires magnifiques d'une telle personne. Quand est-ce que son serviteur, le serviteur de notre Seigneur, a été en esprit? Je fus en esprit dans la journée dominicale, lisons-nous verset 10. Dans la journée dominicale, quand on pense au sabbat, on est étonné de voir l'abondance des passages qui nous parlent du sabbat, et puis pas seulement dans l'Ancien Testament, mais encore dans le Nouveau Testament. Et quand il est parlé du dimanche, le sabbat est le dernier jour de la semaine, le dimanche est le premier jour de la semaine, il n'en est pas parlé souvent. Mais le dimanche, dans notre passage, c'est la journée dominicale. Dominicale est l'adjectif qui vient du mot « Seigneur ». On pourrait très bien traduire la journée seigneuriale. Comme aussi, il est dit en 1 Corinthiens 11, concernant la scène du Seigneur, il est parlé de la scène dominicale, c'est-à-dire la scène seigneuriale, la scène du Seigneur. Et alors, il est donné à l'apôtre Paul de nous donner tout l'enseignement concernant la célébration de la scène dominicale, c'est-à-dire la scène qui est celle du Maître, qui est celle du Seigneur. La scène dominicale, comme ici, il est parlé de la journée dominicale, la journée du Seigneur. Aujourd'hui, c'est cela, c'est dimanche. Du reste, le mot dimanche veut dire cela, le jour du Maître, la journée du Seigneur. Et voilà pourquoi le chrétien a à cœur de mettre à part une telle journée, premier jour de la semaine, parce que c'est la journée du Seigneur, la journée dominicale. Mais est-il souvent parlé du dimanche, chers amis, autrement? Il ne semble pas. Il est parlé rarement du dimanche, alors que si souvent il est parlé du sabbat dans l'Ancien et encore dans le Nouveau Testament. Qu'il nous soit donné de respecter véritablement une journée. Nous ne pouvons pas en user, chers amis, comme nous voulons. On dit facilement dans le monde, on dit facilement, c'est une journée de détente, une journée de liberté, on va s'amuser, on va faire ce que bon nous semble. Ah non, chers amis, une telle journée qu'appartient au Seigneur, la journée du Seigneur, ne peut pas être passée n'importe comment. Elle doit être passée dans le recueillement et dans la pensée de notre Seigneur, de ce que notre Seigneur a fait pour nous, tout spécialement de l'œuvre expiatoire de la croix, de sa mort, c'est-à-dire c'est le jour où aussi la scène, le souvenir de sa mort est célébré, la scène dominicale ou la scène seigneuriale.
Et dans ce jour-là, ce jour du Seigneur, cette journée dominicale, l'apôtre Jean se retourne pour voir la voix qui lui parlait. Il a devant lui le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus dans sa gloire. C'est la troisième fois depuis sa résurrection et son élévation que nous voyons le Seigneur qui est présenté dans sa gloire. La première fois, c'est dans le livre des Actes au chapitre 7. Au chapitre 7, au verset 56. C'est Étienne qui dit ceci: « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La deuxième apparition du Seigneur dans sa gloire, c'est au chapitre 9. Quand il arrête Saul sur le chemin de Damas. Verset 3. Tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il dit: « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis, il y a ce que nous avons dans notre chapitre. Et en image, dans les deux premières fois, nous avons le Seigneur debout à la droite de Dieu, qui est là comme pour accueillir Étienne, Étienne qui va mourir. Et cela nous parle un peu en image de la venue du Seigneur à la rencontre des siens, cette venue que nous attendons, cette venue que nous désirons quand nous serons ravis à sa rencontre sur les nuées. La deuxième, au chapitre 9, il arrête Saul, un juif qui se révoltait contre lui, et c'est un peu en image cette venue où ils reconnaîtront ce dont on vient de parler, où les juifs reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et ici, dans le chapitre que nous voyons, c'est le Seigneur qui vient pour juger, avec tous les attributs du juge et dans la gloire du juge. Celui qui, devant qui tout est mis à nu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, celui aussi qui va juger, on va le voir dans les chapitres 2 et 3, qui va se présenter aussi sous ce caractère-là, et celui aussi qui plus tard sera assis sur le grand trône blanc, devant qui toutes bouches seront fermées.
Que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées. Verset 11. Le même apôtre a été chargé d'écrire une autre épître, d'autres épîtres. La première épître de Jean, par exemple, qui commence « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, quelque chose qu'il a vu et qu'il fait connaître. » Et là, c'était la vie divine, la vie vue dans le Fils, l'homme humilié, l'homme abaissé, celui dont il nous présente la vie dans les évangiles, le chemin de l'homme parfait sur la terre, le Fils de Dieu sur la terre, nous présente ses gloires. Et il écrit une épître qui est basée sur cette vision qu'il a eue du Fils de Dieu sur la terre. Maintenant, il a autre chose à écrire. Il a une autre vision. C'est aussi quelque chose qu'il a vu dans une occasion particulière. Et ce qu'il a vu, eh bien, c'est le Seigneur sous son aspect judiciaire avec tous ses attributs glorieux, n'est-ce pas, mais de jugement. Il avait parlé de l'amour du Seigneur, le disciple que Jésus aimait et qui avait été particulièrement habilité, préparé, qualifié pour parler de l'amour. Maintenant, il va parler du jugement. C'est le même Seigneur, mais présenté sous ses autres caractères. Et il va aussi écrire des épîtres, mais qui n'ont pas du tout le même caractère que celles qu'il a écrites et dans lesquelles nous avons cette révélation de la vie divine qui a brillé en Christ et qui doit briller en nous, cette vie qui est amour et obéissance. Mais ici, ce sont des épîtres prophétiques, et sans anticiper sur le chapitre 2, on peut dire qu'elle nous présente là un panorama complet de l'histoire de l'Église responsable sur la terre. Ce sont des épîtres qui ont un caractère historique maintenant, mais ce tableau est presque achevé, donc on peut dire c'est derrière nous, c'est pratiquement plutôt historique que prophétique, mais à ce moment-là c'était prophétique, c'est-à-dire quelque chose qui allait se passer, sur lequel le Seigneur dont il avait pleine connaissance et qu'il révèle. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'Écriture que d'avoir ainsi des tableaux qui nous présentent un ensemble de faits successifs. Nous prenons par exemple dans le chapitre 49 de la Genèse, nous avons dans les bénédictions de Jacob à ses fils, nous avons toute l'histoire d'Israël qui nous est présentée avec ses 12 fils qui nous présentent chacun d'entre eux un côté de l'histoire d'Israël, un caractère particulier. Nous avons aussi dans le chapitre 23 du Lévitique les 7 fêtes qui nous présentent aussi tout un panorama. Le calendrier d'Israël nous donne une vision successive des grandes étapes, des grands moments de l'histoire du peuple. Et dans cette histoire, nous sommes intercalés, puisque la Pentecôte, nous le savons, c'est le commencement de l'Église. Nous avons un troisième tableau, c'est la grande statue de Daniel. Nous savons que la tête d'or, puis la poitrine d'argent, le ventre et les cuisses des reins, les pieds de fer, d'argile mélangés, nous avons là aussi une vision panoramique, on peut dire, des 4 empires des nations, nous présente tout un aperçu historique, qui à ce moment-là était bien sûr prophétique, et aujourd'hui nous arrivons au 4e empire, nous sommes à la porte. On peut donc dire que ces chapitres, et ils sont annoncés ici par ces 7 lettres mentionnées dans notre verset 11, eh bien nous allons y trouver une présentation de l'histoire de l'Église dans ses différentes étapes. L'Église responsable, bien sûr. Distinguons entre l'Église dans sa position immuable, telle que Dieu la voit, telle qu'elle est en Christ, des bénédictions qui ne peuvent pas lui être ravies, et puis ce qui correspond à sa responsabilité sur la terre et sur cet aspect sur lequel nous aurons l'occasion de nous attarder, puisque c'est le sujet même de nos études.
Donc l'apôtre Jean désirait voir la personne qui parlait, pas seulement entendre cette voix extraordinaire, mais voir la voix qui parlait. Et alors, notre frère vient de le dire, il lui a été donné de voir ces sept lampes d'or, et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et sans la poitrine d'une ceinture d'or. Est-ce qu'il n'y a pas là, chers amis, quelque chose qui, tout d'abord, fait ressortir la glorieuse majesté de notre Seigneur? Une robe, et une robe qui va jusqu'aux pieds. Et puis, d'un autre côté, quant à la ceinture, cette ceinture dont il est parlé souvent dans la parole, soit pour se mettre en marche, soit pour combattre, soit aussi pour adorer, il est parlé souvent de cette ceinture. Ici, alors, on voit le Fils de l'homme qui est saint, à la poitrine d'une ceinture d'or. Est-ce que c'est vraiment la place d'une ceinture, chers amis, la poitrine, une ceinture d'or qui est là? Est-ce qu'il n'y a pas là comme une diminution de la sensibilité? Véritablement, les affections sont comme comprimées, peuvent plus donner libre cours à la place du cœur, au fond. Cette ceinture est là, à la place du cœur. Elle sert cette région-là, comme si l'Esprit de Dieu voulait nous dire que véritablement, en ce jour-là, ce ne sera plus le jour des affections pour son peuple, Dieu a tant aimé le monde, etc. C'est véritablement des affections qui sont comprimées, qui sont comme retenues, une ceinture d'or dans la région du cœur, dans la région de la poitrine. Il nous est parlé d'un troisième trait quand il dit au verset 14, un trait qui ne fait pas penser à la vieillesse, chers amis, certainement que personne d'entre nous pense à cela, mais qui fait penser à l'immutabilité de la personne de notre Seigneur, de celui qui est Dieu depuis toujours et Dieu pour toujours. Notre frère cet après-midi nous a parlé ainsi de la grandeur de la divinité, de ce qu'est Dieu, de ce qu'est notre Seigneur. Alors au verset 14, la tête, sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige. Il y a donc là la pensée d'un être qui demeure toujours. Et nous en avons déjà la preuve d'après le livre de Daniel, chapitre 7, cité tout à l'heure, quand il est dit ceci, au verset 9 du chapitre 7 du livre de Daniel, « Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des jours... » Voilà, chers amis, ce Fils de l'homme, l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Et ensuite, il est parlé du feu, comme il en est parlé dans la suite de notre passage d'Apocalypse 1. Et au verset un peu plus loin, dans ce même chapitre 7e, il est dit au verset 21, « Je regardais, cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. » Nous avons donc l'Ancien des jours jugeant dans son activité judiciaire, soit à l'égard de son peuple terrestre, soit à l'égard de toutes les tribus de la terre. Il est là l'Ancien des jours, et c'est pour faire ressortir cette éternité, ou comme on dit mieux, cette pérennité de la personne du Fils. Quand il est parlé de sa chevelure, blanche comme de la laine, c'est là l'Ancien des jours, il est cela, il prend place, les trônes sont placés, lui-même vient et s'assied, et alors le jugement est exercé par notre Seigneur, ce Fils de l'homme lui-même. Mais remarquons que une telle séance judiciaire ne s'achève pas sur la pensée du jugement. Le jugement fut donné au sein des lieux très hauts, mais sur une pensée finale de grâce, de bénédiction. Fin du verset 22, Daniel 7, « Le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. » Les saints ceux qui appartiendront à Dieu, qui appartiendront au Seigneur, qui auront reconnu le forfait innommable commis par les ancêtres à l'égard du Fils de l'homme, un jour, ils posséderont leur royaume, c'est-à-dire le millénium.
Je remarque sur les ceintures, la ceinture dont il est question dans ce passage, en proposant aux amis de chercher dans la parole de Dieu les différentes ceintures dont le Seigneur est saint. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as détaché mon sac, tu m'as saint de joie. Seigneur est maintenant saint de joie, c'est-à-dire entouré d'une ceinture de joie. Alors nous citons quelques passages dont Exode 30, il y a une question de ceinture, la ceinture de l'éphod et la ceinture de la tunique. On peut voir au bas de la page, c'est Exode 28, je crois. On peut voir au bas de la page une note très intéressante du traducteur. Nous n'allons pas faire long parce que ce n'est pas tout à fait le sujet. Nous avons cette mention autrement pour la ceinture dont il est question que ceinture de verset 4. Le mot c'est kézet, d'ouvrage d'art, ne désignant jamais que la ceinture de l'éphod. La ceinture de l'éphod, la ceinture qui entoure le vêtement sacerdotal par excellence, c'est-à-dire ce qui est les attributs du Seigneur maintenant, l'Écriture n'emploie qu'une seule fois ce mot, ce nom, pour désigner la ceinture de l'éphod. C'est un autre mot que la ceinture du dessous, la ceinture de la tunique. Donc chacun peut trouver ce passage et méditer sur le fait que le Seigneur possède une ceinture au-dessus de toutes. Alors nous avons dans Lévitique 8, la ceinture du service. Dans le psaume 30, nous avons la ceinture de joie du Seigneur ressuscité. Dans le psaume 45, la ceinture du vainqueur. Dans le psaume 93, la ceinture de force. Dans Ésaïe 11, la ceinture de justice. Dans Daniel 10, verset 5, la ceinture de gloire divine personnelle. Dans Luc 12, ceinture de joie dans le service. Et enfin, Apocalypse 1, ceinture d'or, ici de dignité, pour procéder au jugement de l'Église. Mais, chers amis, je voulais faire une petite remarque. Si des personnes ici, des amis, possèdent une ancienne version, JND, ils verront que nous avons changé un mot. Ce n'est plus, ils ne trouveront pas la saint à la poitrine. Ils vont trouver saint aux mamelles. Peut-être encore des amis ont une ancienne version et peuvent un peu trouver étrange que l'on ait modifié le mot mamelle en poitrine. On l'a fait pour des raisons sans doute tout à fait acceptables, surtout dans les contacts avec l'extérieur. Cela donnait lieu à des colibets, des plaisanteries, en parlant, en disant, vous voyez, les mamelles pour un homme, c'est tout à fait ridicule. Alors on a changé, on a donc indiqué le mot poitrine. Mais en fait, chers amis, les Anglais ont encore d'ailleurs mamelles, je crois, dans leur Bible. En fait, on a amputé quelque chose de la gloire du Seigneur. Et nous allons le prouver en montrant que dans le chapitre 15 de ce livre d'Apocalypse, nous avons des personnages qui sont saints à la poitrine. Mais ces personnages n'ont jamais nourri, n'ont jamais été des instruments pour nourrir, chérir l'Église. Chapitre 15 de ce livre d'Apocalypse, « Et les sept anges qui avaient les sept plaies sortirent du temple vêtus d'un lin pur et éclatant et ceints sur leur poitrine de ceinture d'or. » Comprenons bien, il est tout à fait rationnel que les anges soient ceints à la poitrine d'une ceinture d'or, montrant leur dignité, et peut-être aussi le fait qu'il y a là, en même temps que la dignité, une question d'autorité, de jugement qui est en cours. Mais nous comprenons bien que les anges soient saints à la poitrine d'une ceinture d'or. Tandis que pour le Seigneur, si nous retenons poitrine, comme il faut bien, pour sacrifier à la langue, Nous imputons quelque chose du Seigneur. Nous le rabaissons au niveau de l'ange, mais l'ange n'a jamais été celui qui était de la part de Dieu, celui qui était l'auteur du salut et en même temps celui qui nourrissait la foi, celui qui nourrissait la nouvelle vie qu'il avait donnée, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Vous voyez, sorte que sans la poitrine d'une ceinture d'eau, il y en a quelque chose qui est un peu abaissé dans ce que l'Esprit de Dieu présente pour le Seigneur. Je vais encore citer deux passages sur ce sujet, et ce sera bien suffisant, mais nous pensons qu'il était utile de rappeler que nos frères autrefois ne souffraient pas d'avoir des frères comme JND, comme M. Ladrière, M. Rossier, ont lu la parole de Dieu, l'ont traduite en français, et ne se sont pas hérissés à l'égard de cette expression. Je ne porte pas de jugement, mais enfin je constate. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 27. Là, ça se comprend fort bien. Il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule et dit, « Bienheureux le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as têtées. » Il y a encore un autre passage dans l'Évangile de Luc, mais c'est inutile. Celui-là suffit pour montrer que la mamelle est donc l'organe nourricier de la femme pour subvenir à la subsistance, à la nourriture, au développement de l'enfant. « Bienheureuses sont les mamelles que tu as têtées. » Pour le Seigneur, nous devons nous contenter de poitrine.
Dans les caractères qui sont présentés dans ce chapitre, nous avons verset 14, « Ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. » Et dans la scène de la transfiguration, dans l'Évangile selon Marc, il est dit que ses vêtements étaient blancs comme la neige. Et au verset 16, à la fin du verset 16, « Son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. » Et dans la scène de la transfiguration, dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit que son visage resplendissait plus que le soleil. Il a été vu là par ses disciples dans sa gloire de roi et dans sa gloire de celui qui jugera toutes les nations pendant son royaume. Au verset 14, ses yeux comme une flamme de feu. Et on verra plus tard dans les épîtres aux sept églises, dans une épître, il sera vu aussi comme ses yeux avec des flammes de feu. C'est pour Thyatire, au verset 18 du chapitre 2. Ses pieds semblables à de l'airain brillant, ça sera dit aussi pour Thyatire. L'autel d'airain était l'autel du sacrifice, et cela nous parle de jugement. Mais aussi, ses pieds comme de l'airain sont des pieds qui sont sur une base solide et inébranlable. Il est inébranlable. Et il est inébranlable dans son jugement. Et sa voix comme une voix de grandes eaux. Et quelle est cette voix-là? Quelle est la voix que Jean avait entendue quand il était sur la terre? Une voix douce, une voix, la voix de celui qui lui a dit aussi plus loin, qui lui dira « Ne crains pas » à la fin du chapitre. Mais cette voix de grandes eaux, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 1er, il est dit au verset 24, il est question du bruit de grandes eaux comme la voix du Tout-Puissant. C'est la voix du Tout-Puissant, une voix devant laquelle rien ne résiste. Et ensuite, il a dans sa main droite les sept étoiles. Et nous verrons la signification de cela à la fin du chapitre. Et de sa bouche sort une épée aiguë à deux tranchants. Il vient pour sonder par la parole de Dieu tous les motifs, tous les secrets des cœurs. Un regard qui pénètre jusqu'au plus profond. Une épée qui pénètre jusqu'au plus profond. C'est celui-là que voit Jean. Et c'est celui-là aussi dans un sens auquel nous avons affaire, devant qui nous pouvons être. Parce que rien n'échappe à son regard. Peut-être que, ici, nous pouvons parfois
nous trouver dans des situations. On est loin de, pour des enfants, loin de ses parents, par exemple, ou être dans une région où on n'est pas connu. Et étant pas connu, étant loin de ses parents, étant loin d'amis qui peuvent nous surveiller, peut-être, on pourrait se laisser aller et se dire, bon, je vais faire telle et telle chose, personne ne le verra. Est-ce que vous croyez que cela est juste? Bien sûr, nous allons tous dire non. Nous savons bien que nous sommes toujours sous le regard de celui qui voit tout, qui connaît tout, qui sonde tout. Même si nous le connaissons comme notre Sauveur, il est notre Seigneur, celui aussi que nous aimons et que, à qui nous désirons plaire. Et il sonde tout. Rien ne lui échappe. Je peux me présenter devant un frère, lui faire un grand sourire et penser dans mon cœur l'inverse de mon sourire. Lui le sonde. Et certainement, il ne faudrait pas, en lisant ces passages, l'appliquer seulement. Le Seigneur est celui qui est montré là. Et nous avons affaire aussi à quelqu'un qui sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un qui nous connaît parfaitement et quelqu'un alors devant qui nous, quand nous pensons à cela, cela nous rend certainement très sérieux et cela doit toucher à la fois notre conscience et notre cœur.
On a dit de ce regard, de cette flamme de feu, que c'était véritablement le regard du Seigneur, comme notre frère le dit maintenant, qui connaît tout, qui discerne tout, qui sonde tout, mais qui aussi consume tout. Et c'est ce que nous avons dans notre chapitre de l'Apocalypse. Une flamme de feu. Et en rapport avec ce qu'il est dit de sa bouche, d'où sortait une épée aiguë à deux tranchants, est-ce que cela ne nous fait pas penser à ces paroles admirables que Job, au sein de sa souffrance, a pu exprimer dans ce chapitre 19 du livre de Job, que nous aimons tant à rappeler, et surtout lors d'un service d'ensevelissement. Au chapitre 19 de Job, au verset 25, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, avons-nous pas là la pensée de l'oméga, l'alpha et l'oméga, le dernier, l'oméga véritablement, que le dernier, il sera debout sur la terre. » Job souffrait probablement d'une lèpre, d'un mal incurable, et sa peau était peu à peu détruite. Il peut dire ceci, « Après ma peau, verset 6, dévoré, consumé par la lèpre, eh bien, ceci sera détruit. Mon cœur, l'origine de la vie, mon cœur sera détruit. Ma peau est pratiquement détruite, mon cœur sera détruit, c'est la mort. Et après, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu. » Un témoignage admirable en la résurrection. Job le savait. Il était loin d'avoir les révélations que nous avons le bonheur d'avoir, mais il avait déjà foi en une résurrection. Il peut dire, de ma chair je verrai Dieu, que je verrai moi pour moi-même, mes yeux le verront et non un autre, et puis la souffrance est là. Job s'exprime ainsi, il voit la mort venir, mais il a foi en la résurrection. Mais en attendant, il souffre, chers amis, il souffre beaucoup, d'où ses paroles, « Mes reins se consument dans mon sein ». Tandis que ses reins se consumaient dans son sein, eh bien voici que, voyant la mort arriver, il a une pleine confiance en la résurrection. « Mes yeux verront Dieu, et je verrai lui ». C'est pas un autre, je verrai lui-même. Et alors, pour rejoindre la pensée de notre frère tout à l'heure, en rapport avec l'épée aiguë sortant de la bouche du Fils de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas là une parole que nous devrions rappeler, alors surtout lors de la présentation de l'Évangile? Dieu qui fait grâce, c'est vrai, Mais Dieu qui un jour jugera tous ceux qui ne le connaissent pas et tous ceux, selon Deutéronome cité tout à l'heure, tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dit Job? Dernier verset de ce chapitre admirable. Tremblez pour vous-même devant l'épée, car l'épée est l'instrument de la fureur, pas seulement la colère, pas seulement l'indignation, de la fureur contre les iniquités, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Quant à lui-même, Job, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vieux. Je vais mourir tout à l'heure, mais j'ai une foi totale en la puissance de la résurrection. Mes yeux verront Dieu, je le verrai lui-même et pas un autre. Puis quant à vous, qui ne connaissez pas Dieu, eh bien, j'ai l'ultime conseil à vous donner et l'obligation de vous le dire. Tremblez pour vous-même devant l'épée, car l'épée est l'instrument que de la fureur contre les iniquités, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. N'est-il pas remarquable qu'il soit parlé déjà de cette épée, instrument de la fureur divine, instrument contre toute iniquité, qu'il en soit déjà parlé dans le livre qui est peut-être le plus ancien de la révélation divine? On n'a pas besoin d'arriver au dernier livre pour entendre parler d'une épée qui sort de la bouche du Fils de l'homme, du juge, qui va juger en justice la terre habitée tout entière. Déjà dans le plus ancien livre de la parole de Dieu, eh bien on apprend ce que c'est que l'épée du jugement de Dieu, l'épée, instrument de la fureur divine contre les iniquités. Il y a quelque chose de remarquable, vous ne trouvez pas? Dans ce premier livre de la Révélation, le livre de Job, pour arriver alors à ce qui nous occupe dans le dernier livre de la Révélation. Une épée à deux tranchants qui sort de sa bouche pour juger, pour punir, pour châtier.